Que le Seigneur te bénisse, te fasse beaucoup de bien pendant que tu es parmi nous. Amen.
C'est maintenant que je tremble. Je ne sais pas où le Seigneur va nous mener ce matin. Il n'arrête pas de changer mon message. Moi, j'en ai un qui est prêt depuis septembre l'année passée. C'est vrai, en plus, je l'ai déjà donné 7 ou 8 fois. Puis là, j'ai l'impression qu'il est en train de le changer. J'aime pas ça, mais c'est déjà arrivé ici. La dernière fois, je suis venu avec un message tout prêt. Et puis, à la louange, on dit un truc. Puis, mon message a été complètement changé. Puis, j'ai parlé pendant 45 minutes sans aucune note. Ça y est, je recommence. Bienvenue à la Chaux-de-Fonds. Je vais finir par avoir peur de venir chez vous. Oh là là. Bouh. Ouais, je suis un peu tremblant là. Il y a plusieurs choses qui me sont venues à cœur. Là, c'est sérieux. Quand le Seigneur parle, je n'ai pas envie de dire quelque chose qui viendrait de ma chair, qui viendrait de moi, mais qu'on soit aussi soumis les uns aux autres. Je ne suis qu'un invité ici, alors je n'ai pas envie de faire quelque chose que je ne devrais pas. Tout ça pour vous dire que, voilà, je vais me présenter quand même un petit peu pour que vous sachiez qui je suis, quelle est cette espèce de hurluberlu qui vous parle là-bas devant. Je m'appelle Régis. Ça fait 37 ans que je fréquente les églises de réveil. Ça vous donne un aperçu de mon âge? Non, je n'ai pas 37 ans, non. En général, on m'en donne entre 5 et 10 de moins que ce que j'ai réellement, donc peut-être vous êtes déjà choqués. Je suis marié depuis 14 ans, avec une seule femme, c'est bien. Et puis ensemble, on a eu 3 garçons qui ont 12, 10 et 5 ans. Ma femme s'appelle Aksana, elle vient de l'extrême nord de la Russie, d'une région où, comme à la Chaux-de-Fonds, on dit « cette année, on a un bel été, malheureusement, ce jour-là, je travaillais ». Depuis tout petit, le Seigneur m'a appelé à tenir le micro. Il m'a appelé à parler de lui. Il m'a appelé à le servir. À l'âge de 15 ans, j'ai fait une expérience un peu particulière. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Alors, je suis allé voir l'orientateur professionnel. Et puis, l'orientateur professionnel a étalé devant moi une 60aine de cartes avec des représentations, des photos qui pouvaient représenter un métier. Mais à moi, ça représentait un métier. Puis pour quelqu'un d'autre, cette même photo pouvait présenter un autre métier. Et puis il m'a dit, choisis-en 3 de métiers qui t'inspirent. Alors je m'en rappelle de 2. La première, c'était missionnaire. Et la deuxième, c'était humoriste. Et aujourd'hui, je suis en train de vous parler de la mission et je fais le pitre devant vous. Toujours est-il que le Seigneur a de l'humour, et j'espère en avoir suffisamment assez pour vous faire passer un message qui n'est pas nécessairement facile. Parce que je travaille pour la mission ACP, que peut-être vous connaissiez sous le nom CACP. C'est la même chose, on a juste laissé tomber le premier C. C'était Comité d'action pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse, c'est déjà assez long. Alors si on enlève le premier C, ça fait juste action pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse. Un peu moins de comité, un peu plus d'action. C'est bien. C'est une mission qui est née en 1972 en Allemagne. Ce n'est pas une mission américaine. Oui, ça existe, les Européens qui font aussi de la mission. C'est très bien. Amen, merci Seigneur. Et c'est une mission qui a été créée pour répondre à un appel au secours crié par l'Église baptiste de Roumanie sous le régime dictatorial de Nicolae Ceaușescu. Peut-être les plus anciens vous en rappelez. Et donc en Allemagne, plusieurs pasteurs sont partis en Roumanie pour aller amener des Bibles, mais aussi des choses un petit peu étranges, comme du café. Avec 1 kilo de café, du vrai café et pas de l'ersatz, on pouvait construire une église en Roumanie. Ça avait énormément de valeur. Et donc, immédiatement, ce comité s'est mis en marche pour aider l'église persécutée en Roumanie. Puis ensuite, le travail s'est étendu à travers tous les pays de l'ex-bloc de l'Est et aujourd'hui, la mission ACP est présente dans 60 pays. Tu peux lancer le PowerPoint. Le suivant. Alors, est-ce que ça marche depuis là? Si je le branche. Action pour les chrétiens persécutés, c'est pas juste ça. C'est aussi aider les personnes dans la détresse. C'est un deuxième aspect parce qu'en 1972, la Roumanie a connu des inondations dévastatrices à travers le pays entier. On ne peut pas juste aider les chrétiens quand on est dans un cas pareil. On est obligé de venir en aide à la population qui, elle aussi, souffre. Et c'est directement à la fondation de cette mission-là que nous avons eu directement ces deux mandats qui se sont ajoutés l'un à l'autre, soutien à l'Église persécutée et aide aux personnes dans la détresse. Et évidemment, nous sommes une mission. Et la mission, c'est faire connaître Jésus-Christ. Aider les personnes dans la détresse, c'est fantastique, mais si vous ne leur amenez pas un nouvel espoir, ça va changer quoi ? Le travail humaniste et des organisations humanitaires non chrétiennes sauvent des vies. Mais pour combien de temps et pourquoi ? Le travail des organisations humanitaires non chrétiennes, humanistes, comme on les appelle, ou séculières, comme, si vous préférez, il est important parce qu'ils font un travail que nous ne pouvons pas faire. Mais nous voulons amener un espoir différent. Nous voulons amener les gens à changer de mentalité pour entrer dans la mentalité du royaume de Dieu. En entrant dans la mentalité du royaume de Dieu, on change ses circonstances, on change son environnement et donc on arrive à une vie meilleure. Simplement parce qu'on respecte son voisin, par exemple. Simplement parce que grâce à Jésus, on sort de dépendance, comme l'alcool ou la drogue. Amen. Nous croyons qu'en prêchant Jésus-Christ, nous avons un élément qui est indispensable pour les personnes qui sont dans le besoin. Un petit historique que j'ai déjà mentionné en partie. Donc, et puis cette année, 30 ans plus tard, puisque ACP Suisse a été fondée en 1988, et cet été, le 25 août, nous fêtons les 30 ans de la mission basée, le bureau suisse qui a été fondé selon le droit suisse et qui est reconnu d'utilité publique en Suisse et dans tous les cantons suisses. Si jamais vous faites un don, vous pouvez le déduire des impôts. Ça, c'est pour la petite anecdote. Mais ça fait 30 ans qu'on existe en Suisse. Ça fait 30 ans que nous travaillons depuis la Suisse à travers plus de 47 pays depuis la Suisse et plus de 60 pays avec les trois bureaux principaux que sont l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, que vous voyez en rouge plus foncé ici, avec notamment la Tchéquie et l'Italie qui sont venus se rajouter. Avant de passer à l'histoire de Farsad que j'aimerais vous présenter tout à l'heure pour vous parler de l'Église persécutée, j'aimerais qu'on aille ensemble dans la Bible voir un texte qui me paraît important. Et puis c'est justement ce texte-là que j'ai l'impression que le Seigneur aimerait partager ce matin alors que ce n'était pas prévu. Prenez, si vous êtes d'accord, de prendre avec moi Matthieu 25. En fait, ce message, il était légèrement changé parce que quand j'ai eu votre pasteur au téléphone cette semaine, il m'a dit « Rappelle-toi que c'est le dimanche des réfugiés. » Aujourd'hui, c'est le dimanche des réfugiés. C'est le dimanche organisé par le réseau évangélique et l'Alliance évangélique mondiale, un dimanche spécialement sur le thème des réfugiés. Alors, chez ACP, on n'a aucun problème de parler des réfugiés parce qu'on travaille parmi les réfugiés à travers de nombreux pays. Mais j'aimerais qu'on introduise ce temps par une parabole qui est plus qu'une parabole puisqu'elle est une prédiction quelque part. Elle est un texte qui est donné directement par Jésus pour l'après-fin du monde. Donc, on est dans Matthieu 25 et j'aimerais qu'on lise ensemble les versets 31 et suivants. Matthieu 25, verset 31 et suivant. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. » Waouh ! On va se régaler, ça va être génial. « Toutes les nations seront rassemblées devant lui. » Plus d'excuses. « Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. » Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. » « J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ? Ou nus et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Wow. « En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, mais quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » Waouh ! Quel texte violent ! Quel texte violent ! Quel texte exigeant ! Vraiment ! Et la première chose que j'aimerais dire, c'est s'il vous plaît, que personne d'entre vous ce matin ne tombe dans la culpabilité. Personne. Nous sommes en pleine crise mondiale de réfugiés. Il y a les pros, il y a les anti. Il y a ceux qui ouvrent grand leurs portes et il y a ceux qui ferment leurs portes. Il y a ceux qui disent « oui, mais c'est tous des profiteurs ». Il y a ceux qui disent « parmi les vrais réfugiés, il y a des terroristes, des islamistes qui veulent conquérir l'Europe ». Et puis il y a les autres qui sont des fois un peu naïfs, puis qui ouvrent tout grand et puis qui ne savent pas quoi faire, puis après il y a des problèmes. Tout ça, ce sont des vérités. Je dis ce sont des vérités. Il y a des profiteurs, il y a des terroristes, il y a des malades mentaux. Et quand je dis malades mentaux, je ne parle pas des gens qui sont atteints dans leur cerveau au niveau physique, mais des vrais malades qui n'ont qu'une seule envie, c'est de mettre le chenil. Mais il y a aussi des authentiques. Il y a des gens qui espéraient profiter et qui finissent dans des situations catastrophiques. Vous vous rappelez vraisemblablement de cette photo du petit Ayan couché sur la plage. Quand vous connaissez l'histoire de son père, c'est juste horrible. C'est juste horrible. Le gaillard est allé voir sa sœur qui vit au Canada, le père de Ayan. D'accord ? Et il a des graves problèmes de dents, il doit se refaire complètement toute la dentition. Il va voir un dentiste au Canada, et au Canada, on lui dit, ça va lui coûter 40 000 dollars canadiens. Sa sœur lui dit, j'ai pas les sous. Je peux pas t'aider, désolé. Il retourne en Syrie. Son père lui dit, mais avec tous ces réfugiés, tu te mets dans le flux, puis tu te feras réparer les dents gratos en Europe. Il prend avec lui sa femme et ses enfants. Il monte dans un bateau, il perd sa femme et ses deux enfants pour se faire réparer les dents. Le bateau s'échoue, les enfants coulent, l'enfant, on le retrouve sur la plage, il a fait le tour du monde, cette photo. Et le gars passe à la télévision et il est en larmes. Il voulait se faire réparer les dents, il a perdu sa famille. Mais il vit de quoi maintenant ce gaillard ? Il vit de quoi maintenant ce gaillard ? Avec cette peine, cette culpabilité d'avoir voulu espérer pouvoir se faire réparer les dents à moindre coût, ben quel coût ? Quel coût ? Est-ce que je peux me permettre de le juger ? Espèce de salopard ! Excusez-moi du langage. Ou alors, est-ce que je peux avoir la compassion ? Mon gars, mais ça doit être horrible ce qu'il a vécu. Et encore aujourd'hui, il doit être brisé par la compassion. Il n'y a qu'une solution, Jésus. Mais si les chrétiens, on ne bouge pas dans les camps de réfugiés, si on ne va pas à la rencontre des réfugiés, les parents de Ayan, ce père-là, comment il obtiendra le salut, la rédemption de son âme meurtrie parce qu'il a perdu sa famille et pour la culpabilité qu'il a? Et les autres qui ont cherché à fuir simplement parce qu'ils voulaient vivre une vie normale, parce qu'il y a les balles qui ont traversé leur maison, parce qu'il y a un obus qui est tombé à côté, parce que dans la famille, il y a quelqu'un qui s'est converti au christianisme et on les met tous dehors. Et nous sommes responsables de ce qui se passe autour de nous. Nous sommes responsables pour notre génération. Mais on ne peut pas être naïf non plus. On ne peut pas être naïf. Il y a des profiteurs. Il y a des terroristes. Il y a un plan d'invasion de l'Europe par l'islam. C'est une réalité. C'est une vérité. Mais nous devons maintenant prendre notre responsabilité. Et le Seigneur nous invite, dans le texte ici, à venir en aide à celui qui en a besoin. Et ça commence par mon voisin. Ça commence par la voisine qui n'arrive pas à descendre la poubelle dans l'immeuble, puis il y a 5 étages, puis il n'y a pas d'ascenseur. Ça continue par le petit vieillard qui est en train de traverser gentiment la route et il n'y a personne qui l'aide, et puis les voitures qui passent à toute vitesse. J'ai fait ma BA, peut-être. Mais un sourire peut amener un rayon de soleil dans une vie pendant une journée ou plus. Amen. Le Seigneur nous invite à vivre notre foi de façon concrète. Montre-moi la foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres, nous dit Jacques, si je ne me trompe pas. Nous sommes appelés à agir maintenant selon l'enseignement de Jésus. Et en ce dimanche du réfugié, peut-être changer légèrement un petit peu notre mentalité et notre regard vis-à-vis de l'étranger. C'est écrit ici, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Ou vous ne m'avez pas accueilli. Ouais, mais moi je ne peux pas accueillir un réfugié chez moi. Qui te le demande? Qui te le demande? Le Seigneur nous appelle et puis il faut qu'on se laisse interpeller. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Que j'aide ma voisine? Que j'accueille un réfugié? Que j'aille jouer au football avec les enfants des réfugiés qui sont au centre? Oh, peut-être le Seigneur, il me demande simplement d'être déjà un bon mari, une bonne épouse, un bon fils, une bonne fille. Ça commence aussi par là. Marcher selon l'enseignement de Jésus. Amen. Alors oui, on va parler des réfugiés, puis on va voir ce que la mission fait pour les réfugiés. Mais j'aimerais qu'on garde en tête, hé, Seigneur, est-ce que tu m'appelles moi à faire quelque chose de plus que ce que je fais aujourd'hui? Ce n'est pas nécessairement pour le réfugié, je le répète. Mais comme on est aujourd'hui dans une journée particulière, quel est mon cœur? Est-ce que mon cœur est prêt à se laisser interpeller parce que le Seigneur pourrait vouloir semer dans mon cœur? On va se laisser guider, on va voir ces images, on va entendre les histoires. Et puis, on va laisser le Seigneur travailler. C'est chacun pour soi devant le Seigneur. D'accord? Et on va voir que le Seigneur, il fait des choses extraordinaires. C'est l'histoire de Farsad. Farsad est un musulman, petit fils d'ayatollah. Waouh! Dès son plus jeune âge, il est destiné à devenir imam, au moins. Peut-être ayatollah aussi. On ne sait pas. À l'âge de 4 ans, son grand-père lui attrape la main, chla, et lui met sur une bougie. Il lui dit, ça brûle. Hein. Imagine, ben l'enfer, c'est 1000 fois pire. Et si tu commets un péché, c'est pas seulement toi qui vas en enfer, mais c'est toute ta famille. À 4 ans, on lui met une pression telle qu'il va avoir une peur bleue et de l'enfer et de Dieu. Pas étonnant. Et il va essayer tout au long de sa vie de plaire à Allah. Il va essayer, il va faire tous ses efforts. Si vous voulez entendre son histoire complète, elle est disponible en téléchargement sur notre site internet. Donc moi, je vais la faire plus court parce que ça prend 45 minutes quand même. Hein. Mais il va rencontrer Dieu de façon surnaturelle. À force de chercher Dieu, il va finir par le rencontrer. Et le Seigneur va le toucher alors qu'il voulait détruire une église arménienne qui était dans son pays, en Iran. Il va vouloir y mettre le feu. Et au moment où il va le mettre le pied dans l'église, le Saint-Esprit va lui tomber dessus. Bon, il l'avait préparé parce qu'il l'avait déjà parlé plusieurs fois. Mais là, il va lui tomber dessus, il va lui prêcher l'évangile. C'est bien, c'est le Saint-Esprit qui s'en occupe, c'est fantastique. Et pendant une demi-heure, il va se retrouver sur le pas de la porte de l'église, à genoux, sans savoir que le temps passe. Puis le pasteur va venir, à l'heure du culte, lui poser la main sur l'épaule, puis lui dit « Viens, je vais te parler de Jésus ». Puis il le regarde, puis il lui fait « C'est déjà fait ». Il rentre à la maison après le culte, il frappe à la porte. Sa mère ouvre Elle pousse un cri, elle fait deux pas en arrière. Qu'est-ce qui t'arrive ?
Quoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ?
Tu souris ! Le gars a à peu près 30 ans, c'est la première fois de sa vie qu'il souriait. Mais évidemment, quand on devient chrétien en Iran, on a des problèmes. Mais il a été, comme Farsad, a été blessé pendant la guerre Iran-Irak, violemment. Le fait qu'il a tout d'un coup changé de religion, on dit oui, bon, bah, ça doit être un effet secondaire de sa blessure. Et puis bon, comme c'était quand même un officier assez haut gradé, on excuse un petit peu. Mais quand on voit qu'il commence à prêcher l'évangile autour de lui, on dit c'est sérieux le gaillard là. Il va se faire dénoncer, puis jeter en prison, puis condamner à mort. Et on va le sortir de là. Et vous ne devinerez jamais qui c'est qui va le sortir de là. Roulez tambour. Le cousin de la reine d'Angleterre. Excusez du peu. Et là, je fais une petite parenthèse. Peut-être vous vous êtes dit un jour, quand vous avez vu une de ces pétitions passer pour la libération d'un chrétien persécuté, d'un chrétien en prison en Iran, ou on ne sait pas où, vous êtes dit, de toute façon, la signature, ça ne sert à rien. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être vous avez signé, parce que vous êtes une de ces personnes qui aime bien signer ce genre de choses. J'ai fait quelque chose. Et effectivement, on fait quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'une signature, si ACP, on fait signer une pétition, on va avoir quoi ? 5 000 ? 7 000 signatures ? Peut-être. Mais tout d'un coup, cette pétition, elle tombe entre les mains de quelqu'un qui a de l'influence. De l'influence. Et cette même pétition, qui en est peut-être à 4 000, 5 000, 6 000 signatures, en l'espace de 2 semaines, elle passe à 2 millions. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mariam Ibrahim au Soudan, il y a de ça 2 ans. Il y avait 500 signatures, puis tout d'un coup, c'est tombé entre les mains de quelqu'un qui avait de l'influence chez Amnesty International. Le monde entier a été averti de cette pauvre femme qui a été jetée en prison par son soi-disant frère parce qu'elle s'était convertie au christianisme. C'est pas vrai, elle est née chrétienne, elle n'est même pas née musulmane. Enfin bon, elle a été condamnée à 100 coups de fouet, puis à la mort par pendaison, mais elle était enceinte de 9 mois. Elle a accouché en prison, à même le sol, avec les chaînes aux pieds. Mais si c'est juste un CP qui fait circuler la pétition, peut-être on n'arrive à rien. Mais parce que des gens ont accepté de signer, c'est tombé entre les mains de gens qui ont de l'influence, et c'est le gouvernement italien qui est venu la sortir de prison. Et elle a même eu une rencontre personnelle avec le pape. Ma signature a de l'importance. Un petit geste. Un petit geste. Vous êtes venu me rendre visite quand j'étais en prison. Un petit geste qui ne me coûte rien, mais qui peut avoir un impact considérable sur la vie de quelqu'un. Toujours est-il que donc le cousin de la reine d'Angleterre va le sortir de prison 2 jours avant son exécution et il va devoir quitter le pays. Il arrive en Angleterre et puis se dit « Moi, je ne peux pas rester comme ça, tranquille, tout seul. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. » Quelques exemples ici. Vous vous rappelez du pasteur Nadarkhani ? 3 fois en prison. Il vient d'être condamné une 4e fois à 10 ans de prison pour les mêmes cas. Il devrait retourner en prison avant le 1er septembre et passer 10 ans de sa vie, encore une fois, en prison. C'est tombé cette semaine, la semaine passée. Ça, c'est l'Iran. Ça arrive tout le temps. Lui, il est sorti de prison. Je ne peux pas vous dire où il est aujourd'hui. Je n'ai pas le droit. Elle est aussi sortie de prison l'année passée. Elle avait perdu 30 kilos, extrêmement malade. Et puis elles ont écrit un livre que vous pouvez lire, que vous pouvez trouver sur la table ici derrière. Elles ont distribué 25 000 Nouveaux Testaments dans les rues de Téhéran. À Téhéran, ils ont cru que c'était une organisation internationale qui faisait ça. Non, c'était 2 petits bouts de femmes. Donc notre ami Farsad, il se dit, je ne peux pas rester les bras croisés. Et il va commencer à travailler en faveur des réfugiés. Les réfugiés iraniens et afghans qui se pointent quelque part en Grèce et va leur venir en aide, d'abord en les accueillant, les nourrissant et puis leur prêchant l'évangile. Évidemment, tu ne peux pas aller prêcher l'évangile en Afghanistan, tu vas te faire quick. Mais l'Afghan qui débarque en Grèce, celui-là, tu peux l'atteindre, il est là, il est devant chez toi. Alors il va leur prêcher l'évangile. Et progressivement, il va ajouter des gens à son église locale,
beaucoup de gens, baptisé beaucoup de personnes. Je ne sais pas combien on en est aujourd'hui, parce que chez nous, on ne compte pas. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire des disciples. Ce n'est pas de vous dire, hey, donnez des sous, on a fait 400 baptisés. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des disciples qui ensuite vont eux-mêmes faire des disciples, qui vont eux-mêmes faire des disciples, qui vont eux-mêmes faire des disciples. Donc, on ne compte pas. Mais toujours est-il que le nombre de baptisés augmente chaque année. Le nombre de personnes qui s'engagent pour le Seigneur augmente chaque année. C'est en Grèce. C'est aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller travailler à notre centre pour réfugiés à Athènes. Une semaine, deux semaines, trois semaines, tout l'été, pas de problème, on vous envoie. Ça vous coûte le billet d'avion et 25 francs par jour. Et puis vous pouvez travailler sur place. Après, vous êtes pris en charge en intégralité. Qu'est-ce que vous allez faire ? Sourire. Servir aux tables, peler des pommes de terre, nettoyer les toilettes, jouer avec les enfants, dessiner des jolis dessins avec un joli soleil qui fait un gros sourire. C'est du travail missionnaire, ça. Vous avez vu que dans le texte de Matthieu 25, il n'y a pas une seule action spirituelle. Pas une. C'est que des choses concrètes. C'est que des choses physiques. Je vais rendre visite, je vais dire bonjour, je vais nourrir, je vais donner à boire. C'est impressionnant quand même. Hein, ben c'est ça qu'on vous invite à faire si vous êtes intéressé. Vous pouvez le faire en Grèce, mais aussi en Italie ou en Bulgarie ou à d'autres endroits. J'ai pris un groupe de jeunes de Seignelay-Gier. On est parti une semaine rénover des maisons avant l'hiver en Moldavie parce que les murs laissaient passer le vent. Et puis il y a même une maison. À l'intérieur de la maison, c'était à même le sol. Ils avaient des gamins, le gamin qui est en couche-culotte, et puis il traînait dans la boue à l'intérieur de sa maison. C'est effrayant. Toujours est-il, on leur a fait un plancher, écoutez, ils étaient au moins au sec. Oui, c'est la réalité, c'est la Moldavie, c'est à 2000 km d'ici, mais c'est en Europe, vous savez. C'est intéressant. Hein, ça, c'est le centre à Athènes. Et puis, avec le flux des réfugiés, on n'a plus seulement des Afghans et des Iraniens, mais évidemment, énormément de gens qui viennent de Syrie. Et puis aussi beaucoup d'Afrique, hein, énormément d'Africains. Et puis, il se passe quelque chose. Pendant qu'il fait ce travail, notre ami Farsad fait ce travail parmi les réfugiés. Un jour, Dieu lui parle, c'était il y a 8-9 ans, comme ça. Le Seigneur lui parle et lui dit, « Prépare-toi à accueillir des centaines de milliers de personnes en un jour à la frontière turco-syrienne. » Et tout le monde lui dit, « Mais ça n'arrivera jamais, arrête !» Mais lui, il a pris la parole de Dieu au sérieux et il se retrouve à prendre des contacts pendant des années avec les autorités kurdes, autant du côté turc que du côté syrien de la frontière. Et en novembre 2014, il va effectivement se retrouver face à 250 000 personnes qui en un jour vont traverser la frontière parce qu'ils vont fuir la ville de Kobané au nord de la Syrie. C'est des photos pas journalistiques, c'est des photos prises par nos équipes sur place. D'accord ? Et voilà ce qu'ils ont à disposition. 10 000 personnes dans un camp de réfugiés avec 3 containers pour faire pipi. Et même certains renversés dans des conditions absolument effroyables. Mais il est prêt. Et il a des contacts partout. Il fait venir des tentes d'Italie. Et il assèche le terrain. Et ça fait un camp de réfugiés. 10 000 personnes. Ouais, mais on fait comment ? Il faut les nourrir, ces gens. Il faut en prendre soin. Et le Seigneur va pourvoir. Pendant des mois, on va nourrir des milliers de réfugiés avec l'autorisation des autorités kurdes, autant du côté syrien que du côté turc. Il n'y a que l'armée turque régulière qui ne va pas aimer ça. Ils arrivent dans le camp, ils coupent l'électricité, ils ouvrent le conteneur où il y a la nourriture, ils balancent du détergent sur tout et ils s'en vont. Pourquoi ? Parce qu'ils n'aiment pas les Kurdes. C'est une réalité. Malheureusement. C'est la centrale à Safnern, donc c'est derrière Bienne, ici en Suisse. Tout le matériel qu'il y a dans cet entrepôt, il a été récolté dans une trentaine de centres de collecte ici en Suisse, dont plusieurs en Suisse romande. Le plus proche d'ici, il est au Crêt du Locle. Vous Vous avez peut-être vu sur le camion en Suisse les lettres A, V, C. C'est le nom en allemand et le nom international. Pensez pas qu'on a eu un problème de cerveau, quoique pour faire ce boulot, des fois, on est un peu taré. Vous voyez, c'est le logo international, donc AVC, Action für Verfolgte Christen und Notleidende. Donc, faut pas être surpris, c'est la même organisation. Et puis, les combattants kurdes, ils ont réussi à expulser l'État islamique. Merci à eux. Et du coup, on arrive à rentrer dans Kobané et les gens vont retourner chez eux. Mais la ville est détruite à 90%. Il n'y a plus rien. Alors, il faut savoir une chose, chez ACP, à part le centre à Athènes, notre vision par rapport aux flux de réfugiés, c'est d'aider les personnes au plus proche de leur lieu d'origine. Parce que la grosse majorité des gens, ils n'ont pas envie de quitter leur pays. C'est leur pays, c'est leur attache. Ils sont là depuis des générations. D'accord ? Donc, on va essayer de les aider au plus proche de leur lieu d'origine pour qu'ils puissent retourner chez eux et impacter leur propre région. Et depuis Kobané, depuis c'est cette ville qui a été détruite par l'État islamique par les combats, disons, on va rayonner dans tout le nord de la Syrie et de l'Irak jusqu'aux portes de l'ex-capitale de l'État islamique, Raqqa. Et regardez ici, vous avez un petit miracle. Les gilets jaunes, c'est ACP. Les gilets rouges, c'est le Croissant Rouge. Alors, vous avez les gilets jaunes, ce sont des Kurdes. Les gilets rouges, c'est des Arabes. Alors déjà, ils ne peuvent pas se piffrer. Les gilets jaunes, c'est des chrétiens, des jeunes chrétiens, des anciens musulmans, des apostates. Et les rouges, c'est des musulmans. Donc, vous avez des chrétiens kurdes qui travaillent aux côtés d'Arabes musulmans pour venir en aide à des populations arabo-musulmanes. C'est du miracle. Et d'ailleurs, il nous pose la question tout le temps, pourquoi vous faites ça pour nous ? Parce que Jésus vous aime. Parce que Jésus nous a demandé de prendre soin de vous. Et partout où nous allons, nous leur disons clairement, on vient, mais on vient avec le message de Jésus. Et si vous refusez, nous, on repart. On vient avec le message de Jésus, on vient avec l'amour de Jésus et on vient vous témoigner parce que c'est Jésus qui nous demande de le faire, parce que c'est Jésus qui vous aime et qui s'intéresse à vous. Camion hôpital, ici, ambulance, qui viennent de Suisse. Tout ce matériel-là vient de Suisse. Et ce camion hôpital, il est à la frontière avec Raqqa. Il est à 5 km de Raqqa. La ville est encore occupée par l'État islamique. L'État islamique a essayé de le faire péter plusieurs fois. Ils n'ont jamais réussi. Dans la file d'attente des gens qui se font soigner ici, vous avez des femmes en burqa, mais vous avez des terroristes en burqa aussi qui ont des ceintures d'explosifs. Puis tout d'un coup, le garde du corps, il passe comme ça, puis pip, 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 oulala. On prend la personne, on l'amène à 50 mètres de là. Tu aperçois que ce n'est pas une femme, c'est un mec qui est bourré d'explosifs. Ils ont essayé de faire péter l'hôpital, merci Seigneur, ils n'ont pas réussi. Ils ont bombardé depuis la ville et tout est tombé à côté. Ils ont placé des mines sur la route. Le camion a roulé sur les mines. Ça a fait sauter le pare-brise arrière du petit bus de devant. Mais la mine, elle n'a pas sauté. Les Américains, ils débarquent avec l'hélicoptère, tu ne sais pas d'où. Ils disent, bougez pas, vous êtes sur une mine. Ouais, on n'est pas remarqué. Ils font sauter les mines parce qu'il y en avait toute une série. Puis l'officier américain du déminage, il les regarde, il dit, mais ce n'est pas possible, vous devriez tous être en miettes là. On a un grand seigneur. Donc là, les combats vont avoir lieu dans la ville de Raqqa. Autant l'armée kurde que l'armée de démocratie, je ne sais pas trop quoi, indépendante et tout, et les Américains et les Russes et tout le monde, ils sont en train d'avancer sur Raqqa et la ville est en train de se vider de ses habitants. En plus, c'est la grosse tempête de sable et le camion hôpital d'ACP, il fait exactement le chemin inverse. Les gens, ils quittent Raqqa et nous, on arrive à Raqqa. Et il y a des gens qui suffoquent, épouvantables, ils n'arrivent plus à respirer, il faut bien leur venir en aide. Et puis l'État islamique, ils sont tellement intelligents qu'ils ont supprimé la totalité des hôpitaux de la région. Ils ont tout détruit. Ah ! Alors aujourd'hui, on en a 3 qui circulent, 2 en Irak, en Syrie et 1 en Irak. Le dernier est arrivé la semaine passée dans le nord de l'Irak. Et ça fait un bien fou à la population déplacée. Dans le nord de l'Irak, ils sont réfugiés là-bas, dans les montagnes où il fait froid, depuis 25 ans. Et là, on a quelques petites jolies choses. C'est le premier bébé qui est né dans notre hôpital. Vous voyez, il y a une jolie bien croix rouge là. Parce qu'on leur dit clairement, on vient au nom de Jésus. On ne cache pas. Mais les gens viennent, ils ont tellement besoin d'aide. Et ils rencontrent beaucoup, pas tout le monde évidemment, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes rencontrent et acceptent Jésus. Et puis, il se passe des miracles un petit peu partout. Vous voyez, l'État islamique a tout détruit, même les écoles. Alors, on a reconstruit les écoles. Puis, ces trois gaillards-là, dans une ville détruite à 90%, ils se disent « Ah ben tiens, on pourrait lancer une entreprise de construction, ça a de l'avenir. » Alors, ils ont acheté une foreuse, parce que quand on est dans le désert, ben, tu as du sable, tu n'as pas nécessairement du rocher dessous. Alors, évidemment, tu fores un trou, puis ensuite, tu coules du béton, puis ça fait comme une maison sur pilotis. On trouve ça ici en Suisse, par exemple, à Yverdon, on n'a tellement pas de sol. Il n'y a pas de rochers parce que c'est des marais avant qu'on construit les maisons de la même manière. Donc, c'est évident. Mais après, quand l'État islamique est parti, il n'y a pas d'eau. On est dans le désert. Hein, pas d'eau. Mais il y a 250 000 personnes qui habitent là, mais il n'y a pas d'eau. Et puis, le maire de la ville dit une chose extraordinaire. Il dit, on a chassé les derniers chrétiens de la ville de Kobané il y a 50 ans. Il y a 100 ans. Il n'y a plus d'église, plus de chrétiens. On les a tous fichus dehors. Mais quand on les a fichus dehors, on s'est aperçu que la bénédiction du Dieu des chrétiens a quitté la ville en même temps. Et même le fleuve s'est asséché. Alors il dit, je vous offre un terrain, venez construire une église, un centre biblique, une école chrétienne, et ramenez avec vous la bénédiction des chrétiens. Qu'est-ce qui va se passer? Les trois gaillards-là vont creuser dans le sol, après avoir prié, alors que tout le monde cherche jusqu'à plus de 150 mètres de l'eau, après 4 mètres, ils tombent sur une source d'eau vive. Ça, c'est de l'eau. Alors évidemment, c'est un petit peu sale ici, mais les 100% potables, c'est la plus pure qu'ils ont trouvée dans la région. Et tous les villages environnants l'ont déclaré, la bénédiction du Dieu des chrétiens est de retour sur Kobané. Donc là, c'est sur le terrain qu'on a acheté. Finalement, on a refusé qu'ils nous le donnent, on l'a acheté. Et on a construit une boulangerie industrielle qui produit 30 000 pains par jour. Ça fait 20 tonnes de farine. Elle fonctionne au diesel. Alors quand les Turcs ferment la frontière, alors que la frontière est à moins d'un kilomètre, bah, tu es obligé de passer par le nord de l'Irak et revenir en sens inverse pour amener la farine et le diesel pour faire fonctionner tout ça. C'est complètement aberrant. Mais bon, on a un problème avec les Turcs. Hein. Enfin, avec le gouvernement turc, excusez-moi. Et puis là, vous avez toutes les femmes qui travaillent ici. C'est toutes des veuves de la guerre. Alors le mari n'étant plus là pour subvenir aux besoins de la famille, on en a engagé plusieurs qui peuvent gagner leur vie en travaillant à la boulangerie et nourrir ainsi leur famille. Et puis ensuite, ces transports, il y a des transports qui sont organisés pour aller distribuer ces pains quotidiennement dans les villages environnants depuis Kobané. Et les coûts de cette opération sont pris en charge en partie par ACP. Et le Croissant Rouge nous a demandé, vous pouvez mettre combien par mois? Alors on a fait les calculs, on a dit, ça c'est ce qu'on arrive à financer. Ils ont dit, ok, tout le reste, c'est nous qu'on prend. Les musulmans financent le travail des chrétiens. Merci Seigneur. Et là, il faut quand même le dire, j'ai dit que beaucoup venaient à Christ, mais là on a des vrais fruits. Ça, c'est les premiers. Ils sont tous frères et sœurs, là. Hein. Le papa et sa femme, ils ont eu 17 enfants. Et puis, ils sont tous frères et sœurs. Puis ils ont tous donné leur vie à Jésus. Après, il y a encore les autres. Hein. Et puis là, c'est un terroriste de l'État islamique. Ouh, c'est un Paul des temps modernes. Hein. Il persécute les chrétiens. Le Seigneur lui apparaît de façon surnaturelle sur le champ de bataille et va donner sa vie à Jésus. Ils l'ont testé pendant 2 mois avant de le baptiser. Il voulait voir si c'était un vrai chrétien. Mais c'est un vrai de vrai. Alléluia, merci Seigneur. Et on en a eu un deuxième encore il y a quelques mois, mais il avait quitté l'État islamique, il arrive en Grèce, et puis en Grèce, au centre de réfugiés, après quelques mois aussi, ils l'ont baptisé. Et puis, on est en plein milieu du monde musulman, d'accord? Il y a l'État islamique qui n'est pas loin, mais il n'y a pas besoin de faire partie de l'État islamique pour être un fervent musulman. D'accord ? Ça, c'est moi. Mais ce n'est pas moi qui suis important sur cette photo-là. C'est lui-là. 15 ans. Le jeune garçon, là, il est converti depuis 4 mois quand je l'ai rencontré. J'ai pelé les pommes de terre. Je vous ai dit, la mission, ce n'est pas bien difficile. Il faut faire des choses pratiques. Ben, moi, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Vous savez, j'ai une formation en économie. Ça ne sert à rien sur le champ missionnaire. Mais je sais peler les pommes de terre. Yes. Alors, à 7h du matin, peler les pommes de terre pour 3700 personnes, c'est pas mal. Alors, on se met à plusieurs et puis on pèle les pommes de terre. Fantastique gaillard, on ne comprend rien du tout à ce qu'on se dit l'un l'autre, mais on se marre tous les deux à peler les pommes de terre avec d'autres personnes. 3 mois plus tard, l'État islamique revient à Kobané, ils vont le choper au fond de sa cave et ils vont l'amener sur la place du village et vont l'exécuter. Parce qu'il a refusé de revenir à l'islam. Il a 15 ans, il a 7 mois de conversion. Ça, c'est mon héros. Waouh ! Qu'est-ce qu'il a fait, ce gaillard-là ? Qu'est-ce qu'il a compris dans l'évangile ? Qu'est-ce que moi, j'ai pas compris ? Il m'énerve ! 7 mois de conversion, allô ! Moi, ça fait 37 ans que je suis dans les églises de réveil. Et lui, il a refusé et il l'a dit publiquement, vous pouvez me tuer 10 fois, je renoncerai pas à mon Jésus. Et lui aussi s'est fait exécuter par son cousin parce qu'il avait quitté la foi musulmane. Ils l'ont trouvé drogué en Grèce. Il est devenu responsable à Louange, au centre pour réfugiés en Grèce. Il a suivi l'équipe, parce que lui-même il est kurde, il a suivi l'équipe à Kobané. Il est devenu un des anciens de la nouvelle église de Kobané. Et ils l'ont retrouvé et l'ont assassiné. Il y a aussi des revers sur le champ missionnaire. C'est un combat, c'est une réalité. Alors on a vu tout à l'heure, dans le texte qu'on a lu tout au début, que le Seigneur nous appelait nous aussi à faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire moi depuis la Chaux-de-Fonds ou le village environnant ? Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire moi ? Alors j'ai des pistes à vous proposer, comme j'en ai donné quelques-unes tout à l'heure. Vous pouvez faire quelque chose de concret qui peut vous paraître tout petit, tout léger. La première chose que vous pouvez faire, c'est prier. Prier pour le travail, prier pour la mission, prier pour le terrain, prier pour le missionnaire de votre église que vous avez envoyé où il est, prier pour le centre de réfugiés, prier pour ceux qui s'engagent dans le social, prier pour ceux qui sont directement au contact de ceux qui ont besoin d'aide. On a entendu parler du CAS tout à l'heure. Prier, ça je peux faire. Et Seigneur, tu veux que je prie pour quoi ? Je peux aussi partir en mission, faire quelque chose de concret. Je le fais une fois, 2 semaines, je m'engage. 2 semaines, je vais en Grèce. Yeah ! Si tu y vas une fois, tu retourneras. Mais bon, ça c'est une autre question. Tu peux partir en mission. Si tu es intéressé, je peux te donner des informations à la sortie. Puis si tu veux partir seulement dans 3 ans parce que tu ne te sens pas prêt, il n'y a aucun problème. Et si le groupe de jeunes veut organiser un voyage missionnaire pour un été prochain, il n'y a pas de souci, on vous accompagne, on vous aide à préparer votre camp.
Ou en église aussi.
Camp d'été, allez, on va faire de l'humanitaire. Ça peut être sympa aussi. Hein. On peut devenir ambassadeur de la mission, c'est-à-dire représentant de la mission ACP dans sa région, auprès de son tissu social. On peut aussi nous suivre sur Facebook. C'est ACP Suisse, facile à retenir. Mais si vous lisez les informations, vous en avez 2 à 3 fois par semaine des nouvelles informations qui paraissent. Par exemple, un petit film du déchargement du camion humanitaire qui est arrivé cette semaine en Grèce. C'est assez sympa. Mais vous pouvez aussi donner financièrement ou bien des habits de seconde main, du matériel humanitaire qui sera redistribué dans plus de 9 pays à travers l'Europe et le Moyen-Orient. C'est tout à fait possible. Si vous voulez suivre un petit peu les informations de la mission, j'ai ici 2 tableaux que vous pouvez faire circuler. Vous mettez votre nom, votre adresse. Si vous voulez recevoir la lettre de prière, c'est la colonne de gauche parmi ici. La colonne de droite, la prière. Tous les lundis matin, vous recevez un mail de prière dans votre boîte aux lettres, votre boîte email. Et puis à gauche, vous avez la lettre de nouvelles et le journal que vous pouvez recevoir. Le journal, vous allez le recevoir par la poste, de toute façon. Et puis la lettre de nouvelles, vous pouvez la recevoir ou par mail ou par poste. Si vous mettez votre adresse postale, vous allez la recevoir par poste. Si vous mettez votre adresse email, vous allez la recevoir par email, tout simplement. Et si vous n'avez pas envie de le recevoir parce que vous soutenez déjà 14 autres organisations humanitaires, il n'y a pas de problème, je ne contrôle pas les noms à la sortie. Il n'y a aucun souci. Ce sont des idées. Juste des idées. Qu'est-ce que je peux faire? Mais évidemment, on ne fait pas tous la même chose. On n'est pas tous appelés à aller en Syrie. On n'est pas tous appelés à se confronter à un environnement hostile. Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle, moi, à faire aujourd'hui? Eh bien, c'est sur cette question que je vais vous laisser. Je vous propose qu'on prie. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants de ce que tu fais sur le terrain missionnaire. C'est absolument extraordinaire et c'est réjouissant. Et moi dans tout ça? Qu'est-ce que tu veux me donner à faire aujourd'hui, Seigneur? Pour mon voisin? Pour ma belle-mère? Pour mon collègue de travail? Ou un peu plus loin? Seigneur, rends-nous disponibles ce matin pour ton œuvre. Parce que nous ne voulons pas seulement être des témoins dans la rue, mais nous voulons être des témoins actifs. Seigneur, lance-nous, appelle-nous, rends notre cœur sensible à ton appel et que nous puissions véritablement saisir ce à quoi tu nous appelles et aller là où tu nous envoies. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.